BW. Droits et libertés.
La chercheuse camerounaise Rose Ndengue est de nouveau notre invitée pour le second volet de notre entretien. Cette semaine, nous parlons d'afroféminisme avec elle, mais avant cela, on va faire un petit tour à vélo avec des écoliers de Zambie. Sandrine Blanchard au micro, bonjour à tous. La chorale de l'école Tchinkouli chante les louanges des vélos. Et oui, cette école compte environ 1300 élèves et fait partie des plus importantes de la région Chongwe, c'est en Zambie. Beaucoup de ces élèves ont un long trajet à parcourir chaque matin et chaque soir pour aller à l'école et rentrer chez eux. Tessa Biti met 2 heures, ou plutôt, elle met jusqu'à présent 2 heures à pied pour aller à l'école. Mais désormais, elle pourra venir à vélo.
Je suis tellement contente, parce que je suis souvent en retard. D'avoir un vélo, ça va tout changer. Je suis tellement heureuse.
Tessa pousse sa bicyclette flambant neuve à travers la cour de l'école. Les mamans réunies chantent leur gratitude. Plusieurs enfants de l'école reçoivent ce jour-là un vélo de l'organisation World Bicycle Relief. En tout, l'ONG distribuera cette année 4300 vélos à travers le pays. Elle a pu les acheter grâce à des dons. Brian Chikwinyu Munga dirige le bureau zambien de l'ONG.
La distance représente un vrai défi. Je sais ce que ça implique. Moi, je suis allé à l'école avec des gens qui n'ont pas trouvé leur place sur le marché de l'emploi à l'âge adulte. Pas parce qu'ils étaient plus bêtes que les autres, mais parce qu'ils n'étaient pas mobiles dans leur jeunesse. Pour les enfants qui reçoivent aujourd'hui un vélo, ça va tout changer.
Priti Mayova aussi en est convaincue. Elle fait partie des enseignantes de l'école de Tchinkouli.
I promise they will change.
Tout va changer, les notes seront meilleures. Nous pourrons dire aux petites filles qu'elles peuvent devenir infirmières si elles le souhaitent. Maintenant, elles en ont les moyens. Je pense que notre école va bientôt se hisser parmi les meilleures de la région.
Les vélos sont robustes, 24 kg d'acier, pas de fioritures. Ils peuvent porter des charges allant jusqu'à 100 kg. Ils n'ont pas de lumière, certes, mais ils ont une sonnette. L'avantage de ces engins, c'est qu'ils peuvent rouler toute l'année, y compris dans la boue et les flaques d'eau durant la saison des pluies, ou alors dans la poussière à la saison chaude. Et le directeur de l'école, Atsanga Fanton, s'en réjouit.
Les enfants seront plus ponctuels à l'école, ils seront moins fatigués et pourront mieux se concentrer. Il y aura moins de décrochage scolaire. On le voit à leur sourire, ils entament une nouvelle vie.
The way, like from their smiles, their lives are going to change a lot.
It was fine. I felt happy because.
Ça s'est bien passé. J'ai essayé, je suis contente. C'était la première fois que je faisais du vélo. Au début, c'est dur, surtout dans le sable. Mais dès demain, je pourrai venir à l'école avec.
Starting from tomorrow, it will be a different way.
Nous Dans la deuxième partie de ce magazine Droits et Libertés, nous retrouvons Rose Ndengue, sociopoliciste et historienne, membre du CEDREF, le Centre d'enseignement de documentation et de recherche pour les études féministes de l'Université Paris Diderot. Elle nous a parlé la semaine dernière de l'action trop méconnue des femmes dans l'histoire du Cameroun. Mais Rose Ndengue se réclame aussi, à titre privé, d'un certain afroféminisme. Mais qu'est-ce que c'est donc que cela ?
Alors, qu'est-ce que c'est l'afroféminisme ? C'est un mouvement de femmes noires, africaines ou afrodescendantes, qui, vivant dans un contexte blanc, essayent de se réapproprier déjà la narration de leur histoire, des expériences de leurs parents, de la valoriser. Donc, c'est une manière de se réinscrire dans une société, dans l'histoire d'une société qui tend à nier toutes les aspérités coloniales et donc le continuum qui va avec. Aussi de montrer que il y a un racisme qui s'articule avec du sexisme.
Oui, c'est donc ça, c'est que les femmes noires en Europe, par exemple, vivent une addition de discrimination en tant que femmes, en tant que noires, et parfois aussi en tant que pauvres, une discrimination sociale, parce qu'elles n'ont pas forcément accès à la même ascension sociale que les autres.
Exactement, c'est pas tant une addition qu'une articulation, c'est-à-dire que on dit qu'il y a un racisme sexiste et un sexisme racisé. Le sexisme que va vivre une femme noire va être un sexisme particulier, lié aussi au fait qu'elle soit noire. Ce n'est pas juste sexisme plus raciste, ça va être une forme de sexisme particulier, notamment sur le regard sur les corps des femmes noires. Le discours qu'on peut porter sur les corps des femmes noires est un discours sexiste et empreint de racisme. Ça ne s'additionne pas, ça s'articule. C'est-à-dire que c'est parce que ce corps-là est noir et qu'on le regarde avec le prisme de la norme blanche, qu'on va le trouver dysfonctionnel, disproportionné, etc. etc. C'est ces questions-là qu'adresse l'afroféminisme. C'est aussi la question, par exemple, du féminisme qui tend à s'institutionnaliser, notamment des recherches. Mais c'est de dire, alors on fait une histoire du féminisme, mais en fait, on ne dit jamais qu'on fait une histoire du féminisme blanc, alors qu'il y a eu des femmes noires qui se sont battues aussi ici et qui ont dénoncé le sexisme, mais le racisme aussi, et qui ont dénoncé le racisme de leur entre guillemets blanche féministe, la coordination des femmes noires notamment, qui a publié une brochure en 78 je crois, qui réunissait des femmes venues de l'espace antillais et africain, et qui étaient des femmes qui étaient en région parisienne et qui ont décidé de se mobiliser contre le continuum colonial, contre le sexisme, contre le racisme, et qui effectivement renvoyaient les féministes blanches à leur contradiction et à leur participation en fait à une oppression sexiste et raciste sur les femmes non blanches et notamment noires à ce moment-là.
Mais est-ce que c'est pas un petit peu dommage de se penser séparément que de militer pour les droits d'une frange en particulier ? Est-ce que finalement on ne devrait pas aspirer à ce que toutes les femmes, quelles qu'elles soient, aient les mêmes droits en même temps, sans distinction ?
Alors moi, ce que je vais vous dire, c'est qu'en théorie, tout se passe toujours bien. Voilà. Mais on ne vit pas en théorie, on vit de manière pratique. Nous avons toute une histoire. On a une histoire, quand on est une femme noire, descendante de colonisés, on a une histoire particulière qui n'est pas l'histoire des femmes blanches. Les femmes blanches sont héritières de la domination esclavagiste et coloniale, il faudrait déjà qu'elles le reconnaissent. Et nous, les femmes noires, on est héritières d'autre chose. Discussion qui est souvent très très difficile à avoir.
Oui, mais est-ce que ça empêche un avenir commun, d'avoir des passés, des héritages différents?
Alors ça dépend ce qu'on appelle un avenir commun. C'est-à-dire que si on dit qu'on a construit un avenir commun en partant des plus défavorisés, à ce moment-là, peut-être que c'est possible, mais il faudrait vraiment partir des plus défavorisés. C'est-à-dire des femmes non blanches, pauvres, qui sont vraiment à l'articulation de plusieurs systèmes d'oppression. On ne peut pas construire une alliance sur l'agenda des femmes blanches en termes de du voile ou des trucs comme ça. Enfin, les agendas des femmes blanches, ce qu'elles ne comprennent pas parfois, que ce soit ici ou même dans l'espace africain, ce n'est pas les mêmes agendas parce qu'on n'a pas les mêmes urgences. Il ne devrait pas y avoir d'injonction à une émancipation normée parce que la norme, c'est toujours, en fait, c'est le plus fort ou la plus forte qui va imposer sa norme.
Et cela dit, il peut y avoir aussi des hommes qui s'engagent dans un mouvement féministe, dans le combat pour l'émancipation.
Alors, ça dépend comment c'est fait. C'est-à-dire qu'il y a des groupes qui décident de militer en non-mixité, ce qui est tout à fait, pour moi, logique et normal, puisque de la société africaine où je viens, la non-mixité fait partie des codes.
Il y a des mouvements afroféministes qui se réclament du marxisme. Et est-ce que ce n'est pas étonnant de faire cohabiter ces deux façons de penser, puisque on pourrait croire que la femme marxiste se définit d'abord par sa classe sociale, et pas par sa couleur.
Être noir, c'est pas une couleur. Être noir, c'est une situation sociale qui est palpable. Être noir, c'est une question d'accès à la santé, d'accès au logement, d'accès au travail, etc. Donc si on se réduit au fait d'être noir ou blanche à la question de la couleur, j'ai envie de dire, on a tous des couleurs différentes. Moi-même, la manière dont je suis noire en termes de couleur n'est pas la même manière dont une autre copine va être noire. Donc c'est vraiment une question qui est sociale et politique, d'abord.
Toutes les femmes noires ne sont pas en bas de l'échelle sociale et toutes les femmes blanches en haut?
Ah non, mais bien sûr que non, évidemment.
Mais donc, est-ce qu'il n'y a pas des fois une proximité plus grande entre une femme blanche et une femme noire qui sont toutes les deux exclues de la société ou précaires ou plutôt qu'entre deux blanches ou deux noires qui n'ont pas du tout le même milieu, le même vécu social?
Alors là, vous me parlez de la question de proximité, donc des alliances. Les alliances, en fait, ça ne se déclare pas, ça se construit. C'est-à-dire que si une femme noire et une femme blanche qui sont déclassées socialement arrivent à s'entendre et converger pour mettre en place une alliance pour adresser des questions particulières, oui, pourquoi pas?
Oui, elles ont des intérêts communs.
Ce n'est pas interdit. Ça ne peut pas, en fait, il ne peut pas y avoir d'injonction venue du haut en disant « Ah oui, on se ressemble ». Non, il faut pouvoir discuter et voir quels sont les points de convergence, effectivement, et quels sont les points de divergence. Et il ne faut pas avoir peur de diverger. Pour moi, en tout cas, l'afroféminisme duquel je me sens proche, c'est un afroféministe qui est panafricaniste, qui travaille sur les questions effectivement de la présence en métropole, mais qui pense aussi aux femmes vivant sur le continent, aux luttes qu'elles mènent, et qui réfléchissent au soutien qu'on peut apporter.
Bien, merci beaucoup Rose Ndengue.
D'accord, je vous remercie.
Merci à vous, au revoir.
Bonne journée, au revoir.
C'est la fin de ce magazine. Merci à Yann, à Ghent pour les sons de Zambie. Merci aussi et surtout à Rose Ndengue pour l'entretien dont vous retrouverez les deux parties sur notre site internet dw.com/français, rubrique nos podcasts droits et libertés. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de ce magazine, le mardi et le jeudi à 17h30, temps universel. Kimala kanap njep eler kimala kala tun njep asen kaliko.